Nous lisons dans le psaume 4. Psaume 4. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde » dans Jean 8, 12. « Celui qui me suit ne marche pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle de la vie. » C'est pourquoi j'aime ce chant, « Jésus-Christ est ma sagesse », parce que c'est lui qui doit nous conduire. Tous les hommes forts seront confondus. Et aujourd'hui, il n'y a pas que des hommes forts, il y a aussi des femmes fortes qui pensent tout connaître, qui pensent se conduire seules, et que ce soit les hommes, que ce soit de telles femmes, ils finiront mal. Parce que c'est Jésus qui doit nous conduire, comme des enfants, que l'on soit apôtre, que l'on soit pasteur, que l'on soit prophète, on a besoin de Jésus comme conducteur et comme berger. Voilà, qu'il nous conduise encore dans l'écoute de sa parole, puisque c'est sa parole qui est la vérité. Nous lisons dans Psaume au chapitre 4, à partir du verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, tant abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je recommence. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Autrement, qui peut nous donner le bonheur ? Les hommes sont à la recherche du bonheur. Et souvent, le bonheur est confondu au plaisir. Parce que quand on a du plaisir, on se sent bien. Quand on mange, quand on est bien habillé, quand on prend certaines drogues, il y a comme une sorte de plaisir et on se sent bien. Quand on est aussi applaudi, c'est des formes de plaisir. Quand on est admiré, c'est des formes de plaisir. Et l'homme, au lieu de rechercher le vrai bonheur, a commencé à chercher les agents du plaisir. L'argent, la débauche, l'alcool, la beauté. L'homme a confondu les agents du plaisir au bonheur. Et il y a des hommes qui ont trouvé le secret du bonheur. Mais est-ce que c'est un secret ? Ce n'est pas un secret, parce que Dieu a mis tout cela dans le cœur de tout humain, de le rechercher pour trouver le vrai bonheur. Il est écrit, qui nous fera voir le bonheur ? Qui nous fera voir le bonheur ? Qui peut nous donner le bonheur ? Qu'est-ce qui peut nous donner le bonheur ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est l'habillement ? Est-ce que c'est les maisons ? David, l'écrivain du psaume nous dit, « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Cet écrivain a compris que c'est Dieu seul qui peut donner le bonheur lorsqu'il fait lever sa lumière sur toi. Et il dit un verset capital, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. » Le mou, c'est la boisson. Quand on prépare, on doit préparer un vin, la bière ou quoi que ce soit, il y a une étape qu'on appelle le mou. Et ça symbolise la vigne, ça symbolise la boisson. Le mou et le froment symbolisent la nourriture. Et les deux symbolisent les agents du plaisir terrestre. le froment et le moût, la nourriture et la boisson sont les symboles des agents du plaisir de la terre. Et donc on peut tout mettre dedans, dans le froment et le moût. Et l'écrivain du psaume dit, « Tu me donnes la joie dans mon cœur plus que ces gens-là, quand eux, ils ont les agents du plaisir de la terre, quand ils ont l'argent, quand ils ont les instruments de la débauche, quand ils ont l'intelligence, quand ils ont la célébrité, quand ils ont le pouvoir. Je suis plus joyeux qu'eux, alors que moi, je n'ai pas ce qu'ils ont. » C'est un verset capital. Donc, Dieu peut donner la joie, le bonheur, sans passer par les agents du plaisir. Voilà la bonne nouvelle que Jésus apporte. Voilà la bonne nouvelle que les prophètes du Premier Testament venaient apporter aux enfants d'Israël. Recherchez Dieu. Il est capable de s'occuper de vous personnellement, sans forcément que vous soyez obligé d'obtenir les agents du plaisir terrestre. Mais c'est un discours que les humains ne veulent pas entendre. Parce que, mis à part le fait que les hommes aiment les agents du plaisir terrestre, pour leur plaisir, mais ils aiment aussi être au contrôle. Or, les agents du plaisir terrestre, on les a sous la main. Quand tu as l'argent, tu l'as sous la main. Quand tu as l'alcool, tu l'as sous la main. Tu contrôles. Même si en réalité, après, ce sont ces choses-là qui te contrôlent. Mais le fait que tes yeux les voient, ça te donne une sorte de pouvoir, de hauteur qui te fait croire que c'est toi qui contrôles ces agents-là, tu les as. Je me souviens d'un article du livre du Code de la route. Donc quand je cherchais à avoir mon permis, dans mon livre du Code de la route, c'était écrit que la prise d'alcool donne une sensation de puissance qui est le témoignage qu'on a perdu le contrôle. Ce n'est pas la Bible, hein? Livre du Code de la route. Quand tu prends certaines choses, quand tu es dans certains plaisirs, quand tu es dans un certain faux bonheur, ça te donne une sensation d'aisance, de puissance, mais c'est la preuve même que tu as perdu le contrôle. Donc cette sensation-là de force, alors que tu es dans ton agent de plaisir, tu détiens ça, c'est même la preuve que tu as perdu le contrôle, parce que c'est une grave erreur que de croire que les choses de la terre peuvent donner le vrai bonheur. Donc, quand on est dans cette illusion-là, on a perdu le contrôle. Parce que on n'est plus intelligent. On ne voit plus la réalité. Bien-aimé, c'est par ingéniosité, parce que les humains sont intelligents, que nous voyons toutes sortes de maisons, toutes sortes de vêtements, toutes sortes de voitures. Mais ce n'est pas qu'à cause de cela. C'est aussi à cause de l'insatisfaction. Est-ce que vous avez déjà vu les animaux changer de vêtements, changer de... Un lion qui va être avec une crinière aujourd'hui, demain, il se fait coiffer, le lendemain, il va teindre un peu, il va teindre sa crinière comme Tintin, et puis... Ou bien comme Mr. T. Est-ce que vous avez déjà vu un lion faire ces choses-là? Non. Parce qu'il est satisfait de ce qu'il est. Donc ce n'est pas seulement parce qu'on est intelligent qu'on construit beaucoup de maisons. C'est parce qu'on est insatisfait. On a trouvé les anciennes maisons inconfortables. Et on veut quelque chose de confortable, de meilleur. Mais est-ce que vous avez déjà vu un oiseau changer sa façon de faire un nid? Cette année, il fait un nid sous forme de losange. L'année prochaine, il va faire un nid sous forme de pavé. Non. L'oiseau va faire toujours le même nid. Depuis qu'il sait faire le nid, il va faire le même nid. Maintenant, le nid diffère par rapport au genre d'oiseau. Mais le même genre d'oiseau va faire le même nid parce qu'il est satisfait de ce qui a été fait. C'est la preuve que l'homme ne peut pas être dans le bonheur avec ce qu'il a. Parce que s'il était dans le bonheur, il ne changerait pas ce qu'il a. Il continuera à faire la même chose. Mais qui peut me montrer un homme qui est resté constant de sa naissance jusqu'à sa mort? Même maison, même vêtements. Mais non, on change. On cherche toujours plus, on cherche toujours mieux. Les produits de beauté changent. Même il y a ce qu'on appelle la mode. C'est-à-dire que chaque année, il y a, j'ai oublié comment on appelle ça, une nouvelle collection, voilà. Il fallait que je sois aidé quand même par les... Donc chaque année, il y a une nouvelle collection. Mais nous, comme on ne suit pas ces choses-là, on attend ces périodes-là, on fait un petit tour et puis on prend les trucs à moins cher. Voilà. Les gens qui sont esclaves des collections, ils payent cher la vie. Nous, comme on est des vieux ratés, ce n'est pas grave. Même le truc des années 80, du moment que c'est propre, on prend. Parce que l'homme est insatisfait. Quand on est satisfait, on va continuer avec la même chose. C'est aussi simple que ça. Tout ce que nous voyons bien aimé dans nos vies de tous les jours, moi qui ai fait les mathématiques, en mathématiques on ne change pas, c'est le même théorème que les gens ont appris dans les années 1700, ils vont apprendre ça maintenant, parce que c'est des choses solides qui ne peuvent pas bouger, c'est des constats de la nature, ça ne peut pas bouger, c'est ça, c'est Dieu qui a créé ces logiques-là. Donc ça ne peut pas bouger. Mais là où ça bouge, il y a l'insatisfaction, il y a l'imperfection. L'homme ne peut pas trouver le bonheur par les choses de la terre. Il faut une fois pour toutes comprendre ça, bien-aimé. On nous trompe par tous ces faux prédicateurs qui sont en train de prêcher aux gens. Venez recevoir la bénédiction financière. Venez recevoir telle chose. Le mariage. Venez recevoir telle chose. J'ai fait un tour dans un pays. Il y a même une femme qui prêche aux femmes. Venez, je vais prier pour vous. Vous allez avoir un corps comme la guitare. Bien-aimé. Et il y a des femmes qui vont en grande quantité pour devenir des guitares. Bien-aimé. C'est des mensonges. Venez, venez, l'argent, la réussite. Tu vas réussir dans ton mariage. Venez. Comme si sur terre on peut trouver le bonheur. Le problème, c'est que ça continue toujours. Et il y en a qui sortent, de nouveaux prédicateurs qui sortent avec de nouveaux secrets, toujours pour chercher le bonheur sur terre. Et notre frère nous dit ici, qui nous fera voir le bonheur? Et lui-même, il donne la réponse. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Que Dieu brille sur toi. Tu vas recevoir le bonheur. Mais un bonheur qui ne change pas, qui est fixe. Nous voyons le ciel. Hein? Est-ce que ça change de couleur? Jamais. C'est parce que ça a été bien fait. Ça ne change pas. Ce qui a été bien fait ne change pas. Ce qui change montre une certaine imperfection. Ce n'est pas seulement l'intelligence et l'ingéniosité. C'est l'imperfection. C'est l'insatisfaction. Le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, arrêtez de chercher le bonheur par les agents terrestres. Cherchez-moi. Psaume 27 dit, mon âme dit de ta part, c'est-à-dire l'âme de l'homme a reçu un message de Dieu, cherche ma face, dans le psaume 27, 7 à 8. Je cherche ta face, ô Éternel. Je crois que l'âme est souvent trompée par le corps qui dit, mais non, ce dont on a besoin, c'est l'argent. Ce dont on a besoin, c'est la nourriture. Ce dont on a besoin, voilà, c'est de changer de coiffure. Ce dont on a besoin, ceci. Mais l'âme aussi reçoit parfois les messages qui viennent du Saint-Esprit. Ce dont tu as besoin, c'est de la face de Dieu. Cherche ma face. Et David a répondu dans le psaume 27, je cherche ta face, ô Éternel. Aujourd'hui, une fois de plus, cherchons la face de Dieu. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire, lui, il prêche que la même chose. Ce n'est pas grave, bien-aimé. Ce qui est vrai ne change pas. Puisque c'est la vérité, nous prêcherons que la même chose. Je me souviens, il y a quelqu'un qui nous avait quittés, ça faisait 5 ans, il était revenu. Après, il est venu me voir dans le bureau pour me dire bonjour parce qu'il habite maintenant une autre ville. Il me dit, mais pasteur, tu n'as pas changé, tu prêches toujours que le... Moi, il dit, mais tu veux qu'on change quoi? C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de nouveau. C'est que le secret du bonheur, c'est Dieu. Il dit, tu me donnes la joie, verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abonde, hein, ce n'est pas quand ils ont, quand ça abonde, quand ils abondent de richesses, quand ils abondent de femmes, quand ils abondent d'argent, quand ils abondent de voitures, quand ils abondent en toutes ces choses, moi j'ai plus de bonheur que eux quand même. Parce que ça vient de toi. Mais c'est un bonheur que personne ne peut t'arracher parce que ce n'est pas un bien physique que quelqu'un peut te voler. Ce n'est pas un bien physique que l'État ou bien des terroristes peuvent t'arracher. C'est quelque chose de spirituel et surnaturel. Et personne ne peut toucher à ça parce que celui qui te donne veille aussi à ce que tu gardes cela. Cherchons Dieu, bien-aimés. Beaucoup diront, mais oui, mais nous sommes sur terre quand même. Mais Dieu sait que nous sommes sur terre. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Parce que dans le royaume des cieux, il y a tout le reste. Mais maintenant, je ne veux pas qu'on fasse les choses d'une manière mercantile, calculé, où on se dit, bon, je vais chercher Dieu, comme ça il me donnera ma belle voiture. Non, cherchons Dieu que pour Dieu lui-même. Considérons que Dieu nous suffit. Quand Dieu va venir à moi, j'aurai la joie plus que les gens qui ont des voitures, qui ont des Mercedes, qui ont... Voilà, j'aurai la joie plus que ça. Quand Dieu viendra à moi, j'aurai la joie plus que quelqu'un qui est marié. Parce qu'il y en a qui vivent que pour se marier un jour. Et quand ils se marient, ils vivent maintenant pour peut-être divorcer par chance. Mais je suis pasteur. Je reçois des gens dans mon bureau. Des gens qui étaient pressés de se marier. Dès qu'ils se marient, ils sont pressés de se séparer. Parce que le bonheur ne se trouve pas dans le mariage. Le bonheur se trouve dans Dieu lui-même. Il donne un bonheur imperturbable. C'est le véritable bonheur. Ne te trompe pas, bien-aimé. Je ne dis pas, comme beaucoup le font, de chercher à prier Dieu et ainsi il nous donnera la maison, le mariage, l'enfant, ceci. Non, cherchons la face de Dieu pour qu'il nous donne plus de joie, plus de bonheur, plus de paix que les gens qui ont les enfants, qui sont mariés, qui ont des voitures, qui ont des grands héritages, qui ont des richesses. Ben, cherchons Dieu pour recevoir cette joie-là, ce bonheur, plus que les gens qui ont tout cela. C'est ça le salut. Lisons Luc 19. Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Quand on est dans des pays pauvres, les gens, chrétiens ou pas, sont toujours à la quête de richesses, d'argent. Et dernièrement, j'étais dans un pays qui n'est pas pauvre en soi, mais pauvre à cause de la gestion économique des dirigeants. Et j'ai donné ce passage de Zachée. J'ai dit, mais nous, les gens, la plupart des personnes ici, vous cherchez quoi? Même à travers Dieu, vous cherchez ce que vous appelez la bénédiction. En gros, c'est l'argent. Parce que tout ce qu'on peut vouloir, ça tourne autour de l'argent. L'argent peut résoudre beaucoup de choses. Mais, Zachée, est-ce qu'il n'avait pas l'argent? Il avait l'argent. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir? Il avait le pouvoir. Il était le représentant des Romains dans la place. C'est lui qui gérait les taxes pour les Romains. Qui pouvait toucher à Zachée? Personne. Il avait beaucoup d'argent. Mais lui, il avait tout ça. Quand il rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépouille totalement. Parce que, écoutez ce que Zachée dit. Il dit que la moitié de ses biens, il donne aux pauvres. La moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Prenons la richesse de Zachée. La moitié part aux pauvres. Et l'autre moitié. Parce que quand il dit qu'il va rendre au quadruple, on sait bien que les collecteurs d'impôts, c'était des fraudeurs. Donc, il taxait plus qu'il ne fallait. Et donc, en quelque sorte, il avait fait tort à beaucoup de gens. Maintenant, s'il fallait le rendre à chaque fois 4, parce que pourquoi il rendait fois 4? Parce que c'est des recommandations de la loi de Moïse. S'il devait rendre à chaque fois 4, même l'autre moitié allait se vider. Donc, Zachée se vide de tout à la rencontre de Jésus. Quelle contradiction avec ce que nous entendons aujourd'hui. Viens à l'église, ton problème sera résolu. Viens à l'église, tu te marieras. Viens à l'église, tu auras de l'argent. Viens à l'église, Dieu t'aidera. Mais là, Zachée, il se vide de son argent à la rencontre de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? Viens te vider. à la rencontre de Jésus. Il ne faut plus dire, viens, ton problème sera résolu. Viens, on priera, tu auras ton logement, tes 8. Viens, non. Viens te vider. C'est ça la vraie conversion. Tu viens tout lâcher. Mais pour recevoir quoi? Ce qui est éternel. Dieu n'a pas de prix. Vous savez, quand on est dans un marché, on passe quelque part, on voit des chaussures à 15 euros, 30, 40. On se dit, bon, pourquoi pas? Mais arriver dans une boutique, on voit des chaussures à 850 euros. Quelle question va se poser? Qu'est-ce qu'il y a dans cette chaussure qui donne un tel prix? Forcément, la matière est différente. Forcément, les dorures que je vois là, c'est du vrai or. Donc, on mesure parfois la qualité d'un produit par son prix. Ce n'est pas toujours vrai, mais en général, c'est ça. Mais vous pensez que Dieu, sachant tous les trésors qu'il est lui-même, qu'il a en lui, il va se laisser marchander pour rien du tout? Il sait ce qu'il vaut, Dieu, lui. Il sait ce que quelqu'un gagne quand il est en lui. Il sait ce que quelqu'un gagne quand il vient en lui. Et c'est pourquoi Dieu exige qu'on se livre entièrement afin de le recevoir, lui. Parce qu'il sait que quand on le reçoit, lui, on a tout le reste. Imaginez, bien-aimé, qu'on vienne vous vendre un gros diamant à 25 euros. Vous allez vous dire quoi? Ce n'est pas du diamant. C'est tout. Parce que si c'est un gros diamant, ça doit coûter au moins 1 million d'euros. Et la personne vous vend ça à 25 euros. Vous allez dire, non, c'est du verre bricolé. Ce n'est pas de la vraie matière. Et Dieu refuse qu'on vienne le rabaisser au niveau des maisons. Viens à Dieu, il te donnera une maison. Viens à Dieu, il calmera ta femme. Viens à Dieu, il calmera ton mari. Viens. Non, viens à Dieu pour que Dieu s'occupe de toi. Et que désormais, tu sois dans le bonheur. Viens te vider toi-même à Dieu. Viens t'offrir à Dieu. Afin que tu entres dans le vrai bonheur. Viens lâcher ce que tu as. Lâche ce qui constitue ta richesse aujourd'hui. Donne ça à Dieu. Et tu vas voir ce qu'il va faire. C'est pourquoi parmi nous, nous voyons beaucoup de chrétiens tourner en rond parce qu'ils ne se sont pas convertis comme Zachée. Ils se sont convertis dans une logique de marché, de contrat. Je donne un peu de mon temps à Dieu. Je donne un peu de mes sous à Dieu. Et en échange, je suis sûr que j'irai au ciel. En échange, il me protège. Je dors en paix. Et vous allez voir, oui, ils sont protégés. Oui, ils dorment en paix, mais ils ne produisent pas vraiment du fruit. Ils sont juste beaux à voir, c'est tout. Mais il n'y a pas de production. Mais les chrétiens qui produisent, ce sont les chrétiens qui se sont convertis comme Zachée. Ils ont compris qu'ils avaient tout à gagner avec Jésus-Christ. Ils ont tout lâché. Ils n'existent plus. C'est Jésus qui a pris la place. Ce que nous cherchons, bien-aimés, enfin, ce que certains cherchent, Zachée avait déjà ça. Il avait beaucoup d'argent. Mais lui, il s'est dépouillé de ça. Je me souviens d'Edmé Cottier, une Française, une Suissesse. Elle avait 23 ans. Mais elle est partie en Angola en mission. 23 ans, une jeune fille. Elle avait des dispositions physiques de mannequin, mais elle est partie annoncer la bonne nouvelle en Angola. Vous savez, ce n'est pas l'Angola d'aujourd'hui, l'Angola des années 30. Là. Avec tout, c'était encore une forêt pratiquement. Elle va dans ces conditions-là. Posez-vous la question, pourquoi? Parce que ce corps qu'elle avait, c'est ce que toi tu cherches. Mais elle avait déjà ça. Mais ça ne l'a pas satisfait. Elle n'a pas trouvé de goût à cela. Elle a donné ce corps pour annoncer la bonne nouvelle aux indigènes en Angola. Je pense qu'Edmé Cotier ne s'est même pas marié toute sa vie. Avec la beauté physique qu'elle avait. Mais toi, tu es devenu esclave. Tu veux à tout prix un homme. Tu veux à tout prix une femme. Non, bien-aimé. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Les gens qui... Vous n'avez pas appris que Salomon avait 1000 femmes. 1000. Il y a des gens qui disent, mais c'est exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. C'est que quand tu commences avec une deuxième, il y a une troisième qui vient toujours. Puisque la deuxième devient la première. Vous savez, quand on est en l'école, on apprend les nombres relatifs, les moins 2, les moins 3, voilà. Donc ça veut dire que c'est des nombres qui n'ont de valeur qu'en fonction de celui qui le précède. Donc pendant que nous, on voit 1000, Salomon, lui, il voit qu'il a une nouvelle. Il ne voit pas que ça fait 1000. Il voit seulement que c'est une autre après les 999. Nombre relatif. Donc lui, il calcule en fonction de ce qui précède. Nous disons, mais c'est 1000. Non, pour lui, c'est une nouvelle. La millième. Et ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Le monde ne peut pas satisfaire un homme. Le monde ne peut pas nous satisfaire. Aujourd'hui, il y a 120 000 Thaïlandais qui sont femmes-hommes. Mais entre les gens, on a même fait leur miss, leur truc, enfin, leur, je ne sais pas si on doit appeler ça miss ou mystère, mais ils ont fait leur truc comme on fait ici Miss France, mais ils ont fait miss de ces gens-là. Hommes, femmes à la fois. Normalement, on appelle de telles catégories d'individus, on les appelle quoi? On les appelle monstres. Parce qu'il y en a qui disent, oh, mais transsexuels, non. Transsexuels, non. En réalité, si on devait faire les bandes dessinées quand on était petit, on allait dire, mais j'ai vu un monstre. Aujourd'hui, on dit le mot transsexuel. En réalité, c'est un monstre. Soyons honnêtes. Parce que si tu vois ça, c'est un chat. Tu dis, il y a un monstre là. Mais c'est des monstres. Mais on fait des misses des monstres. C'est pour nous dire que l'insatisfaction rend fou. Ce qu'il y a 50 ans, on allait qualifier de monstre, chercher une solution pour ça très vite. Aujourd'hui, ça passe à la télé, l'émission la plus suivie. En Thaïlande, c'est des monstres. Je crois que le premier ministre belge, homosexuel, Elodie Rupo, mes bien-aimés, est-ce qu'il y a 30 ans, on aurait cru à de telles choses? Non. L'insatisfaction. Voilà où ça nous amène. Et je vois même des gens, quand on les interviewe, je voyais un vieux Français qui était là. Bon, nous, on est en retard hein, par rapport à certains pays, là où, là-bas, on a déjà accepté le mariage homosexuel. Il dit que nous, on est en retard. Bientôt, on dira qu'on est en retard. Parce que nos présidents n'ont pas de crête sur la tête. Quoi. Il dit qu'on est en retard. L'insatisfaction. Vous savez, à l'allure où on va, il y a des animaux qui mettent maintenant des manteaux en cuir. Qu'ils ont des... Moi, je ne suis jamais allé dans un salon de coiffure, mais il y a des animaux qui m'ont précédé. Ils ont des salons de toilettage. Donc, on s'occupe de tout. Ongles, tout son coiffe. Et je regardais la télé, ça peut prendre 4 heures du temps. Mais le jour où le propriétaire de cet animal dit, moi je vais me paxer avec mon chien, je pense que le jour où je meurs, au moins, il va hériter de mes biens. Parce que je n'ai personne d'autre. Donc, il y aura toujours des philosophes à te dire, oui, mais comprenez, pour cet homme-là, réfléchissez par empathie, vous allez voir que son chien, c'est tout pour lui, donc c'est normal qu'on fasse le pax. Il ne veut pas qu'à son absence, à sa mort, son chien perde. Et on va finir par faire le pax entre animaux et hommes. Et ça va aller comme ça parce que l'homme est insatisfait toujours. L'insatisfaction est due au fait que l'homme cherche le bonheur sur terre. Et ça va l'amener plus loin dans la méchanceté, dans la déchéance. Nous devons arrêter, nous les chrétiens, à chercher le bonheur sur terre. Je vais vous poser une question. Les prédicateurs qui sont très riches aujourd'hui, qui sont des millionnaires, est-ce que vous, de votre vivant, vous les avez déjà vus faire des vrais miracles? Donc, un mort qui ressuscite, ou que vous avez des preuves, mort ressuscité, ou bien des paralytiques qui marchent. Ils sont très peu nombreux à avoir fait ce genre de miracles. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait ce genre de miracles, ils ne sont même pas riches, donc on ne les compte pas. Mais ceux qui sont très célèbres, là, les prédicateurs qui sont célèbres, qui sont très riches, je cite même les noms, les Benny Hinn, tous ces gens-là, les Kwe Frodo, là. Est-ce que vous les avez déjà vus faire des miracles? Pas du tout. Mais si avec le peu de faux miracles qu'ils font, c'est-à-dire ils soufflent, quelqu'un tombe, ils prophétisent, c'est que quelqu'un tombe, même les Michael Jackson ont fait tomber les gens, juste en passant, les gens qui crient et qui tombent évanouis. Est-ce que ça c'est un miracle? Mais ces gens-là, juste à cause des faux miracles, ils sont très riches. Bon, revenons à la Bible. Si vraiment l'objectif de Dieu, c'est qu'on ait beaucoup d'argent sur terre, vous imaginez ce que Paul et Jésus auraient eu comme argent? Eux qui faisaient de vrais miracles, c'est-à-dire que les habits de Paul n'était plus à l'endroit, les gens prenaient les habits de Paul, ils mettaient sur l'endroit où ils étaient malades, ils étaient guéris. Vous imaginez l'argent qu'auraient eu Jésus et Paul, l'argent qu'auraient eu Jacques et Pierre, parce qu'eux, ils faisaient de vrais miracles. L'argent qu'aurait eu Élisée, vous vous souvenez, Élisée, quand il a guéri le lépreux, le général syrien, le général syrien lui a proposé une grosse richesse, de l'or, des vêtements, beaucoup d'argent, donc une grande richesse. Il avait amené ça pour la personne qui l'aurait guéri. Élisée a dit non, je ne prends pas ça. Mais pourquoi Élisée refuse cette richesse? Pourtant, il ne vole pas cette richesse. On lui donne, on lui propose. Premièrement, il refuse parce que ce n'est pas lui qui a guéri le lépreux, c'est Dieu qui a guéri le lépreux. Mais deuxièmement, il refuse parce qu'il estime qu'il est déjà riche. En Dieu, il est déjà riche. Et Dieu s'occupe de lui chaque jour. Beaucoup vont dire, nous sommes sur terre. Oui, je suis sur terre. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais chaque jour ils sont nourris. Qui peut me donner, me montrer un champ qu'un oiseau a fait? Ou bien un élevage d'oiseaux? Un oiseau qui élève d'autres choses pour manger après? Ou un champ? Pas du tout. Mais ils sont là, ils mangent tous les jours, sans problème. Dieu dit, si les oiseaux mangent, à combien plus forte raison vous qui êtes à moi, les humains? Le Seigneur va s'occuper de nous. Mais il faut qu'on le cherche, lui. Il faut qu'on s'occupe de lui. Il faut qu'on se confie à lui. Il faut qu'on se vide vis-à-vis de lui. Qu'il prenne la première place. Il faut qu'on cherche sa lumière, qu'elle nous éclaire et qu'on marche selon ses voies. Et nous aurons le bonheur plus que les gens qui ont le froment en abondance et le mou en abondance. C'est la vérité, bien-aimé. Changer de formule nous amène à la perdition. Tout celui qui va vous dire, venez, j'ai déjà dépassé mon million, vous aussi vous allez dépasser votre million en écoutant mes prédications, ce ne sont pas des gens qui parlent de la Bible, c'est des satanistes. Le Seigneur a dit, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir l'argent et Dieu à la fois. Il faut choisir. Et un prédicateur qui vous pousse à servir l'argent, comprenez qui il vous pousse à servir. Il y en a qui prennent ça à la rigolade et suivent de tels enseignements. Mais ils reçoivent des mauvais esprits pendant qu'ils suivent comme ça. Parce que Jésus a été clair. On ne peut pas servir l'argent et servir Dieu. Il faut choisir. Aujourd'hui, bien-aimés, choisissons qui nous voulons servir. David, c'était un roi. Vous vous imaginez un roi. Comment devait être son palais? Mais il nous dit, moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il savait que dans la présence de Dieu, il sera plus heureux que dans sa maison, qui est un palais rempli de richesses. Rempli de richesses, mais il savait que le bonheur véritable venait de Dieu seul. Le bonheur véritable vient de lui et de lui seul. Il faut avoir le courage de faire cette prière. Seigneur, je veux le bonheur véritable. Je veux te chercher toi, être avec toi, vivre avec toi. Psaume 84. Psaume 84. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui s'accrochent à l'argent, qui regardent les vêtements de l'autre, la voiture de l'autre, ils veulent avoir la même chose. Qui regarde un tel don spirituel. Vous savez, Jésus, un jour, il a manifesté un puissant don spirituel, ce qu'on appelle la parole de connaissance. Et mieux même que la parole de connaissance, Jésus a manifesté le don de voir à distance. Nathanaël, c'est dans Jean au chapitre 1er. On le fait venir, Nathanaël. Il dit à Nathanaël, Nathanaël, tu es un homme correct. Nathanaël savait aussi que lui-même était un homme correct quand même. On peut le savoir. Mais il dit, mais comment il connaît mon cœur? Parole de connaissance. Comment il connaît mon cœur? Jésus lui dit, mais oui, mais avant qu'on t'amène ici, je t'avais vu quand tu étais sous le figuier. C'est comme si Nathanaël était à 15 kilomètres ou à 5 kilomètres, même si c'est à 3 kilomètres. Mais bien caché quelque part sous un figuier, Jésus l'avait vu. Il dit, mais je t'avais vu quand tu étais sous le figuier. Bon, on disait que souvent sous le figuier, les gens lisent la parole. On lisait la parole à l'époque. Je t'avais vu quand tu étais sous le figuier. Nathanaël dit, mais comment se fait-il que tu m'as vu, toi tu es ici? Il a dit, Seigneur, tu es vraiment le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu vivant, le roi d'Israël. Jésus lui a dit, mais tu es étonné juste pour ça. C'est un don spirituel qui te dépasse. Mais attends, bientôt tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre à travers le Fils de l'homme. Jésus dit, mais attends, bientôt tu me verras tel que je suis réellement. Et quand tu seras avec moi, tu comprendras que ce don-là, c'est rien du tout. Aujourd'hui, les chrétiens courent après des dons, prophétie par la langue. Il y en a qui veulent prêcher. Mais non, il y en a qui veulent chanter, faire des CD. Tout ça, c'est rien. Jésus, c'est plus grand que tout cela. Quand tu as Jésus, tu es plein, tu es rassasié. J'aime un chant qu'on chante en anglais. Depuis que j'ai reçu Jésus, il m'a fait complet. Il m'a rendu complet. Je suis complet. Vous savez, quand quelqu'un est complet, il n'y a plus rien à rajouter. Hein. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque me mange n'aura plus faim. Donc quand tu manifestes la jalousie, quand tu vois l'autre avoir un don, ou bien tu veux à tout prix un don, c'est comme si tu es incomplet. Mais comment quelqu'un peut avoir Jésus et être incomplet? Avoir à tout prix. Et bien aimé, ça monte. Au début, on veut à tout prix un enfant. Et quand on a un enfant, on veut à tout prix une fille. Après, on veut à tout prix un garçon. Donc, les désirs, ça monte toujours. C'est comme ça. Après, on veut avec les cheveux bouclés, frisés. Oui, oui. On a des femmes qui disent, bon, j'aimerais bien enfanter un enfant qui aura des cheveux frisés. Donc, là, ce n'est plus maintenant un garçon, une fille, mais des cheveux frisés. Et ça monte toujours. Ça monte toujours. Il y en a qui disent, oh, avec mon mari, est-ce qu'on aurait quelle couleur d'enfant? Maintenant, là, c'est la couleur qu'ils cherchent. Peut-être la couleur d'Obama. Non, bien-aimé. C'est l'insatisfaction. On n'est jamais satisfait sur la terre. Je vois des gens qui massacrent des dépenses extraordinaires. Il faut telle poussette, tel couvre-lit, mais ça ne va durer que 6 mois. Que 6 mois. Il faut ceci. Et parfois, quand on leur donne un cadeau de quelque chose de vieux, hey, pour mon enfant, il faut. Et l'enfant, il grandit, il t'injurie même. Mais oui, mais c'est ce qu'on voit, non? Et cet enfant, quand il grandit, il dit, ma mère a... Oh. Alors que la maman, c'était couvre-lit tel, maxi-cosi. Pas du vieux, hein? Mais quand, dès que l'enfant grandit, l'insatisfaction, il te manque de respect. Tu as construit dans le vide. Il faut construire sur le Seigneur. Moi, j'aime Josué. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas une question de voiture, ce n'est pas une question. C'est moi et ma maison, nous servirons Dieu. Bien-aimé, moi j'ai dit, on ne touche pas à Jésus. Que tu sois mon enfant ou pas, Jésus est au-dessus de toi. Ça c'est clair, c'est mon discours, jusqu'à ma mort. Amoureux de Jésus, on ne touche pas. Le jour où tu touches à Jésus, ben, tu m'as touché. Parce que Jésus a donné sa vie pour moi. Il n'a pas calculé. Bien aimé, vous savez, rien qu'imagine qu'on vous gifle. Imaginez un seul instant que quelqu'un vous gifle en sortant de là. Et que, est-ce que vous allez sourire? Rien que ça, c'est un exploit. Quelqu'un qui vous gifle et vous souriez. Ou bien vous sortez là, un petit jeune de 12 ans, il dit, petit, il vous appelle petit, viens là. Rien que ça, que vous dites, ah, vieux, je viens alors. Qui va faire ça? Il va dire, ah, grand frère, je viens. Qui va faire ça? Non, mais petit, tu m'appelles petit. Mais tout le monde va réagir comme ça. Mais Jésus, on a craché sur lui. On l'a criblé de fouet. On l'a injurié. Mais pourtant, il suffisait qu'il claque des doigts et toute son armée allait descendre. Mais il devait se laisser faire. Parce qu'il fallait te sauver, il fallait me sauver. Moi, bien-aimé, quand je pense toujours à ça, je suis dépassé. Je dis, il n'y a pas à marchander. Il faut tout donner pour Jésus. Et Jésus, c'est lui qui donne le vrai bonheur. Ce n'est pas les choses de la terre. Si c'était les choses de la terre, les dirigeants de ce monde, les riches de ce monde ne se suicideraient pas, ne prendraient pas la cocaïne, l'héroïne, c'est parce qu'ils sont insatisfaits. Les gens ne deviendront pas homosexuels, ne deviendraient pas cela. Ils ne deviendraient pas hommes-femmes, c'est parce qu'ils sont insatisfaits. Il y a un problème, c'est que les choses de la terre ne peuvent pas satisfaire un homme. C'est Dieu seul qui peut nous satisfaire. C'est pourquoi l'écrivain du psaume a dit, éclaire-moi, fais luire ta face sur moi, afin que je reçoive le vrai bonheur. C'est ça la réalité. Psaume 84. Au chef des chantres sur la guitite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Heureux l'homme qui se confie en toi. Un jour dans tes parvis. J'ai déjà confessé au pasteur Davis que je ne comprends toujours pas ce verset-là. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est tellement grand que juste ma tête comprend ça. Mais je sais qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre de ces versets-là. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Être avec Dieu, c'est plus que tout. Plus que mille ailleurs, vous vous imaginez, on peut être dans beaucoup d'endroits, on peut être dans le coffre-fort d'une banque. Mais lui dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Donc ça vaut mieux que quand tu es chez le roi d'Arabie Saoudite, où l'essence est gratuite, ça va devenir gratuit pour toi. Un jour avec Dieu, ça vaut mieux que mille que tu peux passer ailleurs. Donc tu peux passer 10 jours dans un endroit où il y a des diamants par terre. Mais le verset dit qu'un jour quand même avec Dieu, c'est mieux que ça. Bien-aimés, cherchons à entrer dans le psaume 84. Un jour, heureux l'homme qui se confie en Dieu. Est-ce que, bien-aimés, nous sommes contre le fait qu'on mange? On n'est pas contre le fait qu'on mange. Est-ce qu'on est contre le fait qu'on s'habille? Non. Nous voulons dire tout simplement, ce sont des choses qui sont petites par rapport à la grandeur de Dieu. Dieu est de loin plus grand que tout ça. Il nous donne un bonheur plus puissant, plus fort. Et en plus de ce bonheur-là, il nous donne ce que nous cherchons là. Sans difficulté. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Vous aurez le reste. Bien-aimés, le reste vous avez. Sans difficulté. Parce que vous avez déjà trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé. Nous ressemblons à des gens qui cherchent comment casser un coffre-fort. Ils cherchent une scie, ils cherchent un marteau. Mais il y a quelqu'un qui dit, mais moi j'ai le code. Pourquoi chercher le marteau? Pourquoi? Prends seulement le code, entre, c'est tout. Et le code, c'est Dieu lui-même. Prenons Dieu avec nous. Pas dans le but d'avoir le reste, même si lui nous promet qu'il nous donnera le reste, mais dans le but d'expérimenter le bonheur par lui-même d'abord. Et ensuite, puisque nous sommes sur terre, il nous donnera le reste. Parce que ce sont des choses dont on a besoin sur terre. Mais quand on a appris à vivre que de Dieu, ces choses-là deviennent secondaires. Et elles n'influencent plus notre existence. Et nous ne sommes plus empêcher d'être des chrétiens glorieux, brillants, qui prépareront l'éternité pour nous et pour les autres. Et nous allons de gloire en gloire. Je me souviens d'Esther Gulshan. Elle était la fille d'une riche, un très riche Pakistanais, un homme religieux musulman. Elle avait environ 20 domestiques. Très belle maison au Pakistan, avec des jardins fruitiers, avec tout. Et des comptes dans des banques et puis des actions dans des entreprises. Mais puisqu'elle était née infirme, totale, donc elle ne bougeait pas. On la lavait, on faisait tout pour elle. Et ses membres étaient atrophiés, que ce soit ses bras et ses jambes. Ils étaient minuscules. Elle a cherché la solution pour être guérie. Et une fois, on l'a amenée en Angleterre pour voir un docteur. Le docteur, après examen, a dit à son papa, « Il n'y a que Dieu qui peut guérir ta fille. » Et le papa a dit, « Mais ce n'est pas les chrétiens pourris qui vont nous enseigner comment trouver Dieu. Nous allons partir à la Mecque. C'est là-bas que nous trouverons Dieu. » Ils sont partis à la Mecque. Ils ont fait toutes les cérémonies. La plupart d'entre nous, nous ne connaissons qu'une seule cérémonie, tournée autour de la pierre noire. Mais je peux vous dire qu'il y en a plusieurs cérémonies, il y en a beaucoup. Il faut courir d'une ville à une autre. Il faut jeter des pierres sur une sorte de Goliath, qu'on dit que c'est Satan, une sorte de statue. Il y a beaucoup de cérémonies. Il y a beaucoup de cérémonies là-bas. Elle a fait toutes ces cérémonies. Il faut se laver dans l'eau de source Zamzam. Elle a fait tout ça, mais elle n'a pas été guérie. Et un jour, elle a entendu la voix de Jésus lui dire, « Mais qui a guéri les malades? Qui a donné la vue aux aveugles ?» Et Jésus lui dit, « Je suis Jésus, le fils de Marie. Et il est question de moi dans le Coran. Lis et tu vas voir. » Elle a pris le Coran, elle lisait que la partie où on parlait de Jésus. Et elle a arrêté les prières qu'elle faisait, les prières musulmanes. Elle commençait à parler à Jésus face à face. Et un jour, elle dit à Jésus, « Jésus, mais si tu ne veux pas me guérir, dis-le-moi !» 3 ans après, elle dit ça à Jésus. Et Jésus lui apparaît instantanément avec les 12 apôtres, 6 à gauche, 6 à droite. Et il lui dit, « Lève-toi. » Elle dit, « Mais je ne peux pas me lever. » Vous savez, la lumière dans la chambre était tellement forte qu'elle avait un vêtement vert, ce vêtement est devenu blanc. Je veux dire blanc même après le miracle, c'est resté blanc. Jésus dit, « C'est moi qui te dis, lève-toi. » Il dit, « Mais oui, mais je suis infirme. » Il dit, « Moi, je t'ordonne de te lever. » Bien-aimé, ses membres ont retrouvé la grosseur des membres normaux, des jambes et des bras normaux, et s'est levée. Elle a embrassé Jésus. Et à partir de cet instant-là, elle est devenue disciple de Jésus. Quand on venait lui dire, mais comment tu as été guéri, c'est Jésus? Parce qu'entre-temps, son père était mort. Ses frères disaient, il ne faut pas parler de Jésus. Nous, ici, ce n'est pas Jésus qu'on suit, il ne faut pas parler. Elle disait, mais c'est lui qui m'a guéri. Vous voulez que je dise quoi? Et on a fini par la chasser de la maison. Elle a perdu tout l'héritage. Je vous dis que c'était des millions. Elle pouvait faire comme beaucoup dire, « Oh, je suis déjà guéri, pourquoi pas les millions, je vais les utiliser pour servir Dieu. » Donc je vais faire comme mes frères disent, je ne parle pas de Jésus, mais je le garde dans mon cœur. Je vais commencer à financer les églises en secret avec l'argent. Non, Jésus a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Elle a dit, non, c'est Jésus qui m'a guéri, je continuerai à parler de lui. Elle a perdu tout. Et un jour, on l'a piégée même par un membre de sa famille, elle s'est retrouvée en prison. Vous imaginez une fille qui ne savait même pas comment on lave une assiette, qui avait 20 domestiques se retrouver en prison dans la saleté avec des vraies voleuses. Bien-aimée, elle a souffert les trois premiers jours. Elle ne pouvait même pas utiliser les ustensiles de la prison parce qu'elle n'était pas habituée à une telle saleté. Pendant trois jours, elle n'a pas mangé. Ni bu. Elle ne faisait que prier. Après les trois jours, entre-temps, les autres là tapaient l'injurier. Après les trois jours, les autres ont commencé à voir en elle quelqu'un de différent. Mais qu'est-ce que tu as ? Elle a parlé de Jésus. Toutes elles se sont converties avec les jours passants. Et quand une de ses sœurs est venue la sortir de prison, elle a refusé. Elle dit, mais non, mais dehors, il n'y a pas Jésus. Ici, avec les prisonnières, j'ai Jésus avec moi. Elles se sont converties. Je me sens mieux ici. Sa sœur l'a contraint à sortir. Elle est sortie. Bien-aimé, vous vous imaginez ce que c'est que la vraie conversion. C'est ça. Je suis bien avec Jésus, que ce soit en prison, que ce soit marié, que ce soit non marié, que ce soit avec enfant ou pas, je suis bien, Jésus est là. Mais je peux tout avoir si Jésus est là, ça ne veut rien dire. Mais n'est pas la seule. Richard Rembrandt était prisonnier au temps où le christianisme était interdit dans les Roumanies, dans les pays de l'Est. Il était prisonnier en Roumanie. Dans une cellule pouvant contenir 20 personnes, eux, ils étaient à 100. Ils étaient à 100 dans cette cellule-là. Ils mangeaient les restes des aliments des cochons. On prenait les restes des aliments des cochons, des carottes pourries, des pommes de terre pourries, on mettait dans l'eau, on chauffait, et eux, ils mangeaient ça. Mais, entre-temps, Dieu avait fait des merveilles. Les gens se convertissaient. La présence de Jésus était là. À tel point qu'il y avait une chambre qu'on appelait la chambre de la mort. Quand on sentait que tu étais devenu malade, irrécupérable, on te sortait de ta cellule, on t'amenait dans la chambre de la mort, que tu ailles mourir tranquillement. Et Richard Rembrandt était atteint de maladie et amené dans la chambre de la mort. Mais Jésus a vaincu la mort, bien-aimé. La chambre de la mort s'est transformée en chambre de vie. Ils attendaient que Richard meure, il ne mourrait pas. Et un jour, un des prisonniers reçoit en cadeau deux morceaux de sucre. Je peux vous dire que dans cette prison-là, recevoir du sucre, même déjà en Roumanie à l'époque, avoir du sucre, c'était déjà difficile. Mais en plus, en Russie, en prison, on t'envoie deux morceaux de sucre. Le prisonnier à qui on a envoyé les deux morceaux de sucre, il a préféré donner à quelqu'un d'autre. En disant, mais lui, il est plus mal en point que moi. Je préfère que lui mange ça. Tellement il y avait l'amour de Dieu dans la chambre de la mort. Et celui à qui on donne les deux morceaux de sucre dit non, mais moi je suis trop mal en point, je ne vais pas bien apprécier le sucre. Je préfère ça donner à quelqu'un qui est plus en forme. Et les deux morceaux de sucre ont fait deux mois sans que quelqu'un mange, parce qu'il pensait toujours à donner à quelqu'un d'autre. Quel amour! Et quand le temps de Dieu est arrivé, ils sont sortis en bonne santé de la chambre de la mort. Et quand Dieu a permis que Richard sorte de prison, Richard a fait deux semaines, trois semaines dans la vie normale. Vous savez, dans la vie normale, les gens ne connaissent pas Dieu. Même on dit on parle des chrétiens, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il était fatigué de la vie de l'église. Vous venez, vous priez, chacun retourne chez lui, ça continue. Il a prié, Seigneur, à l'extérieur, je ne te vois pas. Les gens ne t'aiment pas, même ceux qui viennent à l'église. Ils n'ont pas consacré leur vie à toi. Je ne veux plus de cette vie-là. Ramène-moi en prison. Bien, mais quand on dit prison, ce n'est pas nos prisons d'ici, hein, avec le canal SAT. Je l'ai dit. Hein. C'est des prisons, cellules de 20 personnes, mais vous êtes à 100. Avec des bandits, des voleurs. Et il a préféré rentrer là-bas parce qu'il savait que dans cette souffrance-là, Jésus sera total. Et les gens sont touchés, se convertissent. Il est rentré, hein, puisque Dieu, quand tu lui demandes, il exauce. Dieu l'a ramené en prison. Vous savez, Richard Rembrandt est mort à quel âge? Il est mort à 91 ans. Vous savez, quand il a fini par ressortir encore de prison, Dieu a permis qu'il aille aux États-Unis, qu'il soit exilé aux États-Unis. Et le médecin américain qui l'a ausculté, lui a dit, mais ton corps est rempli de trous partout. Tellement il a souffert en prison, son corps n'était plus un corps d'homme normal. Tu regardes le poumon, il y a des trous. Tu regardes le cœur, il y a des... Il dit, mais ton corps est rempli de trous. Mais il est mort à 91 ans, en bonne santé, après avoir fait une œuvre extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'Association des Églises Martyrs. Une œuvre extraordinaire. Il est mort après avoir servi son Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est ce qu'a expérimenté Richard Rembrandt, c'est ce qu'a expérimenté Esther Gulchan. Voilà. Ce sont ces gens-là que nous voulons suivre, au nom de Jésus. C'est ce qu'ont expérimenté les fils de Corée qui ont écrit ce psaume 84. C'est ce qu'a expérimenté David. C'est ce qu'a expérimenté Paul quand il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi désormais. Et il a dit dans le même passage, dans Philippiens 3, il a dit, j'ai renoncé à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur. Voilà. Bien-aimé, je ne sais pas comment expliquer toutes ces choses, mais c'est grand, le psaume 84. Prions que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on entre dans le psaume 84, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier que tu nous ouvres les yeux, qu'on s'attache à toi réellement, car il est écrit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, quand nous voulons réfléchir humainement, c'est une comparaison qui nous dépasse. Comment mille jours dans des grands jardins, là où il y a des diamants, il y a tout ça, c'est rien par rapport à un jour avec toi, Seigneur. C'est parce que dès qu'on est avec toi, tout est complet, tout est fini. Oh Seigneur, aide-nous à entrer dans le psaume 84. Aide-nous à chercher ta lumière, comme le psaume 4 nous le dit. Fais luire, fais briller sur nous ta lumière, afin que notre existence change. Ô Éternel,